Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Bonjour, ici Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Voici un nouvel épisode du service politique. Nouvel épisode qu'on vient d'enregistrer à chaud avec Léopold Audebert. À chaud après l'émission événement face à BFM, Éric Zemmour. Ce soir sur BFM TV, notre grande émission face aux journalistes de la rédaction ou des rédactions de BFM, BFM Business, RMC. Et on vient de remonter du rez-de-chaussée où se trouve le plateau jusqu'au service qui est au deuxième étage. Et on vient d'enregistrer un épisode avec Léopold Audebert qui suit la campagne d'Éric Zemmour sur le terrain depuis plusieurs mois. Nous sommes dans la nuit du mercredi 12 janvier au jeudi 13 janvier. Ça veut dire donc, si on se cale au jeudi, que nous sommes à 101 jours du choix des Français du second tour de la présidentielle. Salut Léopold.
Salut Philippe.
Bon, il est minuit 16.
Ouais, il est tard.
Voilà, c'est ça. On vient de terminer l'émission face à BFM avec Éric Zemmour. Toi, tu n'étais pas dans l'émission, dans le studio, mais tu étais juste
loin,
à côté, dans un tout petit studio qu'on avait monté où tu faisais un live Twitch, c'est-à-dire que tu commentais en direct
pour les internautes
sur Twitch avec Mathieu Croissando.
Absolument.
L'émission. Et après l'émission, tu as reçu Éric Zemmour avec toi
pour
débriefer un peu l'émission. Et toi, tu es celui à la rédaction qui connaît le mieux Éric Zemmour parce que tu le suis partout
sur
le terrain, partout. Qu'est-ce que tu as pensé de l'émission en général?
Alors, moi, je suis assez partagé. Je trouve...
Il a réussi ou il n'a pas réussi? Alors, il est à un moment clé de sa campagne. Il doit relancer une dynamique. Est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il a plutôt marqué des points ce soir?
Moi, je trouve qu'il n'en a ni perdu ni marqué. Je vais te dire, je trouve que cette émission est à l'image de ce moment dans sa campagne,
ouais.
Une sorte de stagnation. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de mesures, c'était une sorte de gros récap finalement, ouais, de tout ce qu'on a appris ces derniers jours. Là, maintenant, on voit qu'il est en train d'affirmer son programme avec des mesures de plus en plus précises. Je trouve personnellement qu'il était sur une sorte de stratégie d'affirmer, de répéter des termes clés qui lui tiennent à cœur pour que tout le monde vraiment sache maintenant ce qu'il propose, en gros se légitimer en tant que vrai candidat. Je trouve aussi qu'il a parfois esquivé beaucoup de questions.
Oui.
Il y a beaucoup de questions qui étaient frontales et une sorte de tendance à détourner un peu la réponse.
Pour résumer, je sais pas si tu es d'accord, peu de surprises en fait.
Bah oui.
Peu de choses nouvelles.
Je suis d'accord.
Et y a quelque chose qui m'a frappé, parce que c'est vrai que l'émission est très longue, puisque l'émission a duré 2h35, plus 2h35. C'est très long, sans publicité. C'est-à-dire qu'à la fin, quand je suis arrivé sur le plateau, vraiment au générique de fin, je l'ai vu boire d'un coup la moitié d'une bouteille d'eau tellement il était déshydraté.
Il a dit c'est fatigant d'ailleurs.
C'est
il
vraiment
a répété.
Fatigant. Tous les candidats qui l'ont fait.
Mais c'est pas
le
seul.
Je me souviens d'en avoir parlé avec Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon en sortant l'émission. Ils sont fatigués, contents de l'avoir faite, mais fatigués. Et tout de suite sur le plateau, voilà, il était fatigué. On voyait même un peu de sueur dans ses cheveux. Et on a assez rapidement, il y a quelque chose moi qui m'a frappé, ça va te sembler anecdotique, c'est que comme ça dans un format aussi long, il n'y a pas d'émission politique aussi longue comme ça, ce qu'il fait habituellement depuis toujours, c'est-à-dire d'avoir des citations littéraires.
Alors là oui.
Il y avait, je lui ai dit, on en parlait c'est en blaguant, mais je pense qu'il faudrait faire, à un moment donné quand on
était
nous regarder l'émission, en régie, on aurait pu faire la liste. Je pense que on compte en dizaines le nombre de citations littéraires, et c'est pas du tout... une surprise, parce que Éric Zemmour cite souvent des auteurs et répète souvent les mêmes citations. Mais du coup, dans une émission comme ça, de 2h30, 2h35, sans publicité, il y avait un côté... ça se voyait beaucoup, quoi. Et il y avait un côté où parfois, on avait l'impression qu'il se reposait. Pour éviter une question, il
mais je suis d'accord
sur
avec
une
toi.
Citation. Et c'est pas, là, encore une fois, c'est pas nouveau. Il le fait régulièrement. Mais c'était particulièrement frappant dans une émission comme
les
ça.
Les gens l'ont remarqué, d'ailleurs, sur Internet. Ouais. Nous, on a eu beaucoup de retours de gens qui disaient « Ah, bah ça, on sait déjà. Ça, on a compris.
Ouais.
Finalement, qu'est-ce qu'il propose de nouveau sur l'énergie ?» Il a parlé un peu, là, des éoliennes. Mais en fait, les éoliennes, il en parle depuis très longtemps. Mais moi, j'ai pas encore eu d'affirmation, de plan détaillé sur l'énergie, juste comme ça, par exemple. Et les gens, on était avec des jeunes, nous, qui sont pour certains assez sensibles à ces questions-là, ouais, ont été un peu déçus. Voilà.
On va pas résumer tout ce qui s'est passé dans ces 2h30 d'émission. Il y avait une partie assez intéressante sur l'école et
qui est son thème actuel de campagne.
Qu'est-ce qu'on fait pour l'école, voilà. Il y avait une partie économique avec Nicolas Dos. Il y avait une partie, il y avait Apolline de Mal. Disons les choses franchement, je pense que ce qui restera pour les téléspectateurs, c'est l'interview qui, à mon sens, comme journaliste, était formidable de Bruce Toussaint, de manière générale, où Bruce a fait parler. En gros, il a commencé en disant une élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et un peuple, et Éric Zemmour semblait tout à fait acquiescer
à ce
présupposé. C'est sa conception de la Ve République. Et moi, j'ai appris des choses, là, notamment sur son rapport à la terre de ses ancêtres, c'est-à-dire l'Algérie.
C'est vrai que cette partie était très intéressante sur des résumés un peu de sa famille, oui, d'où il vient.
Oui, c'est ça. Il a d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a répondu. Il voulait démentir un certain nombre d'analyses de psychologie de comptoir qui sont parfois faites autour de lui. Et pour tout dire, à la sortie, il disait c'est Plenel, Edoué Plenel qui raconte ça depuis 20 ans.
Oui,
en gros,
l'idée
qu'au fond, sa conception, sa position sur l'immigration, sur l'islam, serait liée, je résume, mais à une forme de revanche contre les musulmans qui aurait chassé sa famille de leur terre, l'Algérie, pour revenir en France. Et il a expliqué assez longuement dans l'émission que ce n'était pas ça. Que, au fond, sa famille, lui est né à Montreuil, mais ses parents et ses grands-parents avaient fui l'Algérie. Que ses parents et ses grands-parents ne vivaient pas du tout dans une revanche, c'est dans une nostalgie de l'Algérie. Et c'est, au fond, l'arrivée en métropole qui leur a permis de sortir de l'extrême pauvreté où ils étaient en Algérie pour monter dans l'échelle sociale, ou en tout cas faire en sorte que leurs enfants montent dans l'échelle sociale comme c'est son cas. Et j'ai trouvé que cette partie était intéressante. Il y a peut-être une part de légende personnelle, et c'est le cas souvent, ce serait le cas de tout candidat qui raconterait ses origines familiales, mais j'ai trouvé que c'était intéressant qu'il vienne naturellement là-dessus.
Mais surtout que je trouve qu'on est dans une période de sa campagne où on parle beaucoup de cette... ce faux plat, ce tassement que lui-même nous a reconnu d'ailleurs quand on était il y a quelques jours à son quartier général, nous disant effectivement il y a un tassement, mais c'est un tassement dans certains sondages, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, il est dans une stratégie de proximité.
Ouais.
Il cherche déjà à travers ses déplacements dans les zones rurales, là il est vraiment dans des petites villes, mais là, ce matin, il a fait aussi ses voeux aux commerçants avec cette idée de dire « je suis dans le même monde que vous, moi aussi j'ai grandi dans une extrême pauvreté, regardez d'où je viens », et là, ce soir encore, écoutez mon histoire, regardez mes ancêtres, voyez que je suis finalement quelqu'un de normal finalement.
Ouais.
Et ça, c'est une stratégie qui est différente par rapport à celle qu'on voyait dans la première partie de cette pré-campagne, où vraiment il y a des grandes théories sur la France, s'élever au-dessus de tout le monde, montrer qu'il était aussi différent.
Oui.
Moi, je sens une sorte de changement là dans cette deuxième partie de campagne. Il faudra voir la suite si il poursuit, mais je trouve ça assez intéressant.
Oui, d'une certaine manière, pour caricaturer, d'humaniser.
Oui, c'est ça. Parce qu'il a compris que
un personnage politique qui pouvait paraître dur, cassant, pour une partie des électeurs, non pas ceux qui sont convaincus que ses idées doivent être portées au pouvoir, mais il doit élargir sa base d'une certaine manière.
C'est ça.
Et donc il doit adoucir, ou non pas adoucir, mais en tout cas donner autre chose et donner un peu de chair. Dans cette partie-là, il y avait quelque chose d'autre intéressant amené par Bruce Toussaint. Assez naturellement, il a fait parler de sa mère, il a fait parler de son père, et notamment en racontant, et on en revient à ce qu'on disait sur les citations, il disait, j'ai raconté pour la première fois, il nous l'a raconté d'ailleurs après en coulisses, que c'est vraiment la première fois qu'il racontait ça publiquement, qu'il avait découvert quelques jours avant la mort de son père, que son père, donc venu d'Algérie, gardait dans sa poche, dans sa veste, un petit carnet avec des citations de grands auteurs français, et que dans les derniers jours de sa vie, il pestait parce que l'âge, il perdait une partie de sa mémoire, et donc il ne retrouvait plus spontanément les citations. Et j'ai trouvé que c'était assez... quiconque a perdu un parent sait qu'on vit jusqu'à la fin, pour le reste de sa vie, avec le souvenir de son père ou de sa mère disparue. Et j'ai trouvé que c'était assez sincère ce moment-là, et que il y avait une, évidemment, il y a une part de calcul parce qu'à un moment donné, dans une campagne électorale, les journalistes politiques, c'est exactement ce qu'il fait. Mais je crois qu'il y avait un moment aussi de sincérité à ce moment-là pour parler de sa famille et parler de son père et que c'était assez nouveau de son.
Oui, et lui-même
l'a reconnu.
On l'a
entendu comme ça là, ces derniers mois.
Effectivement, lui-même l'a reconnu tout à l'heure parce qu'on l'a reçu, nous, après, devant les internautes sur Twitch
les
pour répondre à quelques questions. Bah oui, ils étaient aussi.
D'ailleurs, ils disaient oui, c'est quoi ce truc que vous voulez que je fasse là?
Absolument, c'était assez, assez drôle, ça, effectivement, parce que bon, ils comprenaient pas trop ce qu'était vraiment cette partie de post-émission où ils devaient répondre à quelques questions rapidement devant l'écran de Twitch.
Ouais.
Il s'est prêté à l'exercice, effectivement, et il y a beaucoup de gens qui effectivement, disaient à ce moment-là. Finalement, cette partie sur un peu la vie plus privée qu'il a abordée, et il est reconnu, ouais. Effectivement, en nous disant on sait jamais jusqu'où on doit aller, mais je pense que j'ai bien fait, voilà, de me dévoiler plus ce soir.
Et dans cette partie-là, dans cette partie amenée par Brice Toussaint, au fond, après, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes de conversation.
Une partie
entre
plus inattendue.
Il y avait quelque chose de plus inattendu, et Bruce, parce qu'il avait parlé de la terre de ses ancêtres, de son rapport à la France, au fond, il y avait. Il parlait de sa mère, il avait parlé de son père.
C'est très proche, finalement.
Voilà, de c'est très proche. Il lui a posé une question qui est journalistiquement extrêmement factuelle et une question qui, à mon avis, est une question qu'il faut poser. Et peut-être parce qu'il est journaliste politique à l'origine, Éric Zemmour a compris qu'il fallait qu'il y réponde. Il a saisi cette occasion. Brice Toussaint lui a posé une question lui demandant qui est Sarah Gnafo.
Question très courte.
Question très courte. Qu'est-ce qu'il a répondu à ce moment-là? Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission ou qui n'ont pas vu cette séquence qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux.
Alors, si je synthétise le début de sa réponse, c'est ma conseillère.
Ma collaboratrice.
C'est ma collaboratrice. Ouais. C'est ma compagne.
Voilà.
Je n'irai pas plus loin.
Voilà, exactement. Et j'ai trouvé, et là je parle en termes de stratégie politique, et je pense que à ce moment-là c'était un moment de sincérité, mais il est aussi dans une campagne électorale, il est aussi journaliste politique, donc il pense aussi en termes de stratégie. Je pense qu'il avait raison. À ce moment-là, de mettre un mot sur la nature de sa relation avec Sarah Gnafo, qui était présente en coulisses à ce moment-là. Et je pense qu'il fallait le faire, il l'a fait là. Et donc, d'une certaine manière, il n'aura plus à le refaire d'ici la fin de la campagne.
On précise, Philippe, que dans d'autres émissions, la question avait déjà été posée.
Oui.
Et qu'il avait toujours dit « ma vie privée, c'est ma vie privée,
exactement.
Je n'ai pas à répondre à votre question ». Donc, il y a eu un choix volontaire.
Absolument.
Ce soir qui a été fait. Personne
c'est pas un piège du tout.
Mais non, personne ne lui a dit. La question finalement a été déjà posée d'une autre manière dans d'autres contextes, mais jusqu'à présent il y avait un mur, on ouais. ne répond pas à cette question, la ligne c'est le candidat en tant que candidat, mais pas au-delà, sa vie privée n'a pas à rentrer dans la sphère du débat. Elle ne rentre pas non plus dans la sphère du débat ce soir, mais en ouais. tout cas il y a une sorte de détail, de clarification, d'information supplémentaire qui est actée avec cette émission.
Toi qui suis. Éric Zemmour et Sarah Gnafo qui l'accompagnent
bien
toujours
sûr,
sur le terrain.
Bien sûr, ensemble sur les déplacements, bien sûr.
Ça n'est pas une litote, enfin plutôt c'est une litote de dire qu'elle n'aime pas parler aux journalistes, ou en tout cas ne pas parler de ces sujets-là aux journalistes.
Est-ce que tu l'as déjà entendu parler dans les médias, Philippe, par exemple?
Moi, non. Ça m'est arrivé de lui parler.
En privé, bien sûr.
Enfin, en privé, je veux dire, en tout cas pas à l'antenne.
Quand on la croise et quand elle est là, oui.
Et qu'elle sait que c'est un sujet d'interrogation des journalistes. Mmh. Et j'ai été frappé qu'il choisisse d'y répondre ce soir, comme ça, à ce moment de la campagne.
D'une manière extrêmement...
Sobre.
Sobre, finalement. Pas de détails, on ne saura pas
non.
depuis quand, on n'a pas... Voilà, c'est pas... Ça ne nous regarde pas, encore une fois, mais il y a un choix qui a été opéré ce soir.
Et Sarah Gnafo était dans les coulisses de BFM.
Absolument, elle suivait l'émission avec deux membres de son équipe, qui étaient là également.
Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de dévoiler les un moment. Disons qu'elle n'était pas. Disons qu'on a compris
que sa réaction.
Que ça n'était qu'elle était. Qu'elle, comment dire à sa réaction, on a compris que ça n'était pas quelque chose qu'ils avaient décidé à l'avance et que tout ça n'était pas un moment téléphoné.
Elle
que
a été même surprise.
Elle était surprise et pour dire les choses de façon.
Ça n'avait pas forcément.
Pas forcément ravi.
Vraiment plus.
Voilà. Et
mais pour autant, comme
il en a parlé après l'émission avec elle, oui. Sans rentrer dans les détails, mais elle ne souhaitait pas. Disons qu'elle était agacée à l'idée que ce soit ça qu'on retienne de l'émission.
Mmh.
Voilà.
Oui, parce qu'on imagine que peut-être. Faut rappeler aussi pour les gens qui nous écoutent que Sarah Gnafo, en tant que conseillère, et son titre, c'est directrice de la stratégie.
Voilà.
Elle imagine et elle pense avec Éric Zemmour l'ensemble de ses discours. Elle imagine les séquences, c'est-à-dire à quel moment on parle de quoi. Et peut-être que ce soir, elle a été surprise par ce moment qui ne devait pas forcément exister dans son esprit.
Absolument. C'était pas prévu d'avance. Hein, elle ne savait pas que la question serait posée.
Selon elle, le message va être brouillé finalement.
Oui, c'est ça.
Voilà. Qu'on ne va pas retenir d'Éric Zemmour les propositions, ou en tout cas la prestation sur le fond. Je pense qu'elle craint très fortement qu'on ne retienne que cette séquence.
Oui, et pour tout dire, elle était, c'est l'objet de notre conversation à l'issue de l'émission, quelques minutes après l'émission, elle était agacée que ce soit quelque chose qui revienne sur les réseaux sociaux et que ce soit retenu dans l'émission.
Et pour autant, donc Éric Zemmour, comme je te disais, on l'a reçu après.
Il t'en a parlé.
Et alors, ce qui est très intéressant, ce qui est très intéressant, c'est qu'après cette séquence, Éric Zemmour revient de lui-même à notre ordinateur face aux internautes sur Twitch sur la séquence, alors qu'on lui pose pas de questions à ce moment-là sur ça, en nous expliquant finalement que la vie privée n'est pas forcément un sujet avec lequel il est le plus à l'aise, qu'il a finalement bien répondu aux questions. Et il dit cette phrase « Bruce Toussaint m'a fait parler de moi davantage que j'en ai l'habitude. Ça ne m'a ni plu ni déplu. J'ai essayé d'être le plus sincère possible. Après, on ne sait jamais où s'arrêter parce qu'il y a forcément une limite. » C'est ce que j'ai dit, il faut respecter la vie privée des gens. Je ne suis pas dans le calcul pour le meilleur et pour le pire. Donc en fait, finalement, on comprend que cette séquence-là, on lui pose la question, il sent que c'est peut-être le moment. Des fois, il y a des moments comme ça, je pense, dans une campagne.
Enfin,
toi, tu as plus d'expérience que moi sur ça, mais il y a peut-être des moments
dans
une campagne.
C'est une manière de dire que je suis plus vieux et plus con que toi.
Non, pas du tout, j'oserais pas. Mais tu vois ce que je veux dire,
oui,
peut-être qu'il y a dans une campagne des moments clés où le candidat sent quelque chose.
Un moment de sincérité.
C'est le moment, c'est maintenant, j'en parle.
Et d'ailleurs, la question n'était pas du tout une question intrusive dans sa vie privée.
C'était parce qu'en fait, il aurait pu ne pas y répondre.
On lui demandait de définir le rôle que jouait cette personnalité marquante de sa campagne, qui est sans cesse à ses côtés sur tous ses déplacements et qui est cruciale. Et d'ailleurs, il a dit quelque chose, enfin, je paraphrase, mais je n'aurais pas été candidat sans elle, ou en tout cas, je ne serais pas là sans elle. Il y a quelque chose dans cette idée-là qu'il a exprimé. Elle a été essentielle dans cette pré-campagne, dans cette campagne, elle est centrale. Et donc, Bruce lui a simplement demandé de définir qui est Sarah Gnafo, quel est son rôle auprès de lui. Et il l'a fait avec ses mots assez simples. Elle est ma collaboratrice et elle est ma compagne.
Est-ce que tu penses qu'il a fait, aux yeux de Sarah Gnafo, une erreur ce soir?
Toi, en termes de stratégie?
Parler un petit peu et en termes de stratégie.
Moi, je pense, et là encore une fois, je parle là d'un point de vue de stratégie dans une campagne, et je ne dis pas que c'était insincère et uniquement un calcul. Je pense que c'était juste un moment, comme tu viens de le dire, un moment où il fait un choix et il répond. Mais je pense qu'il a eu raison de le faire. C'est-à-dire qu'il le fait là. C'est une question que se posent pas seulement des journalistes politiques, mais que se posent des Français qui voient les magazines, ils voient les magazines People. Et d'une certaine manière, je pense qu'en termes de stratégie, le faire là, de façon assez propre, sobre, fait que la prochaine fois qu'il aura la question, il aura la question à nouveau dans d'autres interviews dans les prochaines semaines. Il pourra
vous
dire,
avez dit que...
J'y ai répondu sur un plateau. Je ne vais pas y revenir, reformons ce sujet, passons à autre chose. Donc je pense que, comme journaliste...
Est-ce que tu penses que c'est une sorte de boulet dont il se débarrasse finalement?
Boulet, non, parce que ce n'est pas un boulet, c'est juste un moment de, comme tu disais, un moment de sincérité sur qui il est, qui...
Je dis ça parce que ça revenait beaucoup, et qu'en fait ça devenait parfois,
oui,
peut-être d'un point de vue stratégiquement politique, polluer peut-être ce qu'il voulait apporter. La question elle revenait, il y a des insinuations, choses comme ça. Est-ce que le fait de le dire aujourd'hui, ce n'est pas finalement... une sorte de chose qui va évacuer la question? En tout cas, c'est peut-être ce qu'il espérait en le disant aussi.
En tout cas, je pense qu'à ce moment-là, en tout cas, en sortant, il ne regrettait pas d'avoir évoqué ce sujet-là.
Enfin, comme
tu l'as dit,
cas,
c'est ce qu'il t'a dit dans le Twitch après l'émission.
Pas d'énervement du tout de sa part, non.
Et d'ailleurs, il est revenu spontanément. Bon, il est minuit 33.
Et 17 secondes.
Et 17 secondes. Nous sommes presque tout seuls. Il y a encore des gens qui travaillent à la rédaction.
C'est assez sombre, la lumière.
C'est assez sombre, parce que moi, je baisse la lumière ici. Et je vais me dépêcher de me coucher, parce que je suis censé être de matinale également.
Ah oui, Benjamin est encore en plateau.
Et Benjamin, voilà, il tient qu'il sort de plateau aussi, parce qu'il faut qu'il aille se coucher. et donc on se retrouve. On va faire un épisode demain,
ouais.
Non, je sais plus si on est quoi, de mercredi, je sais plus. Enfin, en gros, on va faire un épisode avant le week-end parce qu'on sera à 100 jours du second tour.
Déjà
100 jours du second tour. Donc on va faire un épisode pour un peu hors série pour ces 100 jours. Et puis on aura l'occasion de parler d'Éric Zemmour.
Moins de 3 mois. Le 10 avril.
Bonne nuit.
Bonne nuit, Philippe.
Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans quelques jours. N'hésitez pas à vous abonner et à faire connaître ce balado, ce podcast sur les réseaux sociaux.